Bonjour, bonjour à tous. Et les grandes voix sont au complet aujourd'hui. Bonjour à Catherine Ney, Charles Villeneuve, Michel Cotta, Gérard Carrérou.
Bonjour Pierre.
Bonjour.
Les anti-vax, j'ai très envie de les emmerder. Au-delà de la phrase de la semaine, c'est une phrase qui restera dans l'histoire politique de la France. Quoi qu'on en pense, Emmanuel Macron répondait au lecteur du Parisien, venu lui poser des questions à l'Élysée. Mais ses mots ont une portée bien plus grande qu'on ne le pense. Et même qu'il ne le pensait lui, peut-être. Le débat à l'Assemblée s'est envenimé. Il a fallu 3 nuits blanches pour adopter le très controversé verser passe vaccinal. Avec un service après-vente féroce, Jean Castex en tête, ce coup de poker que fait le président désormais clairement candidat n'est-il pas une faute politique? À quoi joue-t-il? Nous en débattons dans un instant. Valérie Pécresse a quant à elle inauguré La Fabrique, son QG de campagne flambant neuf dans l'ouest parisien. À l'intérieur, vous les connaissez presque tous, c'est une équipe qui rappelle furieusement la Sarkozy et la campagne de François Fillon. Valérie Pécresse peine-t-elle à imprimer son image, quitte à s'effacer devant ceux qu'elle a pourtant battus à la primaire? Les grandes voix nous en parlent. Lui, après avoir caracolé en haut des sondages, est aujourd'hui à la peine. Éric Zemmour a annoncé sur Europe 1 cette semaine peiner à rassembler les promesses de parrainage. Il en appelle publiquement au président de l'AMF, David Lisnard, pour venir en aide. Lui qui, en sous-main, bénéficierait de l'aide des Républicains pour obtenir des soutiens. Mauvais perdant ou effet pchit pour le polémiste candidat? Enfin, que se passe-t-il au Kazakhstan, ce pays lointain et pourtant stratégique, à la fois pour la Chine, la Russie, l'Europe et en particulier la France? Le bras de fer entre le président Tokayev et la population a pour fond un malaise socio-économique, alors que le chef de l'État a avancé une attaque terroriste. Le Kazakhstan est une mine d'or de matières premières pour le monde entier, charbon, uranium, etc. Alors, qu'est-ce qui est en train de se jouer là-bas? Avec quelles conséquences sur nous? Et quand je dis nous, c'est pas que la France. Réponse en fin d'émission. Vous avez le programme, le débat des grandes voix, c'est parti. C'est une des phrases que l'on citera plus tard, en la critiquant ou en la louant, peu importe, mais on la citera. Elle est passée dans la postérité comme tant d'autres. « Je ne suis pas pour emmerder les Français, je pèse toute la journée contre l'administration. » Et bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et ce n'est pas tout, il remet en cause la citoyenneté des non-vaccinés. C'est l'immense faute morale des anti-vax, ils viennent saper ce qu'est la solidité d'une nation. Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n'est plus un citoyen. Question simple, est-ce qu'un président de la République peut dire ça, Charles Villeneuve, et de cette manière?
Écoutez, moi je pense que le quinquennat d'Emmanuel Macron a ses angles morts. La sécurité, l'immigration, le pouvoir d'achat. Et le président presque candidat les a contournés en choisissant et en calculant soigneusement d'exprimer son envie d'emmerder les non-vaccinés qu'il a remis au premier rang des débats. La gestion du virus du Covid, le président de la République va sur un terrain qui lui est favorable. D'autant plus que dans la foulée, le vote à l'Assemblée nationale, vous l'avez rappelé, sur le pass vaccinal n'a pas été glorieux pour la droite républicaine. Le groupe des députés LR s'est brisé en 3 parties. Un tiers a voté pour, un tiers a voté contre, un tiers s'est abstenu. Ce qui a pris à contre-pied Valérie Pécresse, qui est pour le pass vaccinal, et a montré l'autorité insuffisante de la candidate à l'élection présidentielle sur ses troupes. En cela, le double but du président de la République est atteint. Le presque candidat, je dis bien le presque parce qu'il a quasiment, dans le Parisien, annoncé sa candidature, en tout cas l'a effleuré, a marqué un point au moins temporairement, par le choix des mots et l'effet produit sur l'opinion publique.
Michel Cotta.
Alors, je vais simplement raconter la façon dont je l'ai ressenti. Quand le matin, j'ai entendu, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, c'est une erreur.
Sur le mot lui-même, sur la sémantique.
Sur le mot lui-même, je me suis dit, c'est une erreur considérable. Mais comment il s'en relèvera? Et nous sommes quelques-uns à nous être appelés en disant, non, ça c'est l'équivalent de François Hollande parlant à ces deux journalistes du Monde. Et puis progressivement, je me suis aperçu dans la journée qu'après ce jugement sévère et même catastrophique quand même quelque part sur un candidat, progressivement on a commencé à dire oui mais c'est exactement ce que dit Charles, c'est-à-dire on a dit oui mais il divise quand même il divise la droite, oui mais il divise Valérie Pécresse, bon. Et en réalité je pense en parlant de stratégie, vous savez que c'est pas tant la stratégie, c'est le personnage de Macron qui est en cause là-dedans. Le personnage, au fond, le 12 juillet, il a dit qu'il faut aller se faire vacciner. Tout le monde est allé se faire vacciner. Et là, il s'est dit, où est-ce que je peux aller le plus loin possible moi, Macron, qui ai le droit de dire ce que je veux. Et c'est plutôt ça que je vois, plus que la stratégie politique. C'est si je fais tout ce que je peux, ils iront, quitte à naturellement à ce que les autres en prennent plein la figure.
Gérard Carreau.
J'ai eu, moi, à peu près un itinéraire comme celui de Michel. J'étais le matin même du Parisien sur un plateau de télé. On m'a évidemment posé la question, est-ce que c'est un bon coup pour Macron ou un mauvais coup ? J'ai réagi instinctivement en disant non, c'est pas possible, on ne dit pas ça. J'ai réagi comme un analyste politique de l'ancien monde.
Absolument, moi aussi.
C'est-à-dire des gens qui avaient l'habitude, et c'est le cas pour tous ceux qui sont autour de cette table, qui avaient l'habitude de fréquenter des présidents de la République qui n'auraient pas dit ça. En tout cas, qui n'auraient pas dit ça comme ça. Ça, c'est clair. Et puis ensuite, le temps un petit peu a passé, j'ai réfléchi, et même à la fin de l'émission, je suis réintervenu pour dire, bah, écoutez, je voudrais nuancer un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce qu'effectivement, il y avait la dualité du candidat et du président. Le président n'aurait pas dû dire ça. Le candidat, à sa réélection dans 3 mois, a jugé bon et probablement a eu raison de dire ça. Pourquoi ? Parce que ce qui compte dans une politique, hein, c'est quelle que soit la politique, c'est souvent, en campagne électorale, la fin justifie les moyens. Et sa fin, c'était de solidifier son bloc électoral, de solidifier les gens qui ont un peu peur, de solidifier les gens les plus âgés. Et tout ça, il l'a réussi. De mettre, et Charles l'a dit, et aussi toi, Michel, de mettre de compromettre un petit peu les forces en face de lui. Il a gêné manifestement Madame Pécresse. Il a gêné, effectivement, tout le monde. Donc, il a réussi son coup. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire des coups comme ça ? Mais c'est aussi le signe de notre campagne qui est violente, qui n'est pas belle. Jusqu'à présent, ce n'est pas une belle campagne. La preuve qu'elle n'est pas belle, c'est qu'on ne parle rien, jamais de l'essentiel, sauf dans la pré-campagne, et qu'on ne parle plus maintenant que de la maladie et qu'on le fait d'une manière...
Mais c'est comme la guerre, peu importe qu'elle soit belle ou pas, la campagne.
Mais les batailles, ou on les gagne ou on les perd.
Oui, Catherine Ney.
Oui, c'est-à-dire que quand il va même plus loin, quand il traite ceux qui refusent de se faire vacciner d'être de bons citoyens, alors qu'il n'y a pas de... Puisqu'il n'y a pas de loi, ils n'enfreignent pas la loi, quoi. Ils sont de mauvais citoyens parce qu'ils ne pensent pas aux autres et ils ne pensent pas à eux-mêmes et à leur santé.
Ça reste une opinion, voilà.
Ça reste une opinion. Donc, non, ce qui est intéressant, c'est que quand on écoute Macron, il dit toujours une chose et son contraire. Vous voyez, quand il a donné l'interview à TF1, il a dit, dans le fond, quand je fais le bilan, j'ai pu blesser des gens, il y a des mots que je ne redirai pas, voilà, il faut me faire attention. Donc, je veux dire, c'était plutôt, je ne le referai plus, j'ai appris. J'ai appris qu'on ne parle pas comme ça aux Français. Et là, il a appris qu'il fallait quand même, il a voulu frapper l'opinion en disant, là, c'était un coup qui était motivé. Et non pas parce qu'il a voulu séduire son éditoire, parce que là, il y avait deux femmes qui travaillaient dans les soins et qui leur disaient qu'elles n'en pouvaient plus de ces gens pas vaccinés. C'était préparé de... Voilà, il savait vraiment qu'il avait à dire pour inciter les gens à se faire vacciner, et pour, mais aussi avec le risque de les exciter. Je veux dire, les policiers, quand ils ont entendu ça, ils n'étaient pas du tout contents en disant qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui dans les manifs.
Et d'ailleurs, 40 000 personnes sont attendues aujourd'hui.
40 000 personnes sont attendues. Comment ça va dégénérer ? Voilà, c'est très difficile à manier. Mais d'un autre côté, la vox populi, et moi aussi, j'ai eu les mêmes réactions que mes deux confrères, c'est-à-dire le premier, je me dis, quelle gaffe. Et après, je me suis dit, mais dans le fond, moi aussi, je pense ça. Moi, je me dis, mais c'est crétin. Vous voyez, quand vous voyez les deux frères Bogdanov, on disait, c'est pas beau d'être aussi intelligent pour être aussi con, pas s'être vacciné. On se dit ça, au fond. Hein, on se dit ça. Donc, on s'est dit, il parle comme nous, il nous a entendus aussi.
Alors, justement, le sondage Odoxa Le Figaro sur suite à cette phrase-là, Emmanuel Macron n'est ni sympathique, 60%, ni même compétent, 54%. Une majorité considère même qu'il ne le dit pas la vérité, pardon, à 61%. Voilà le résultat de cette phrase qui était, on le dit encore, un coup de poker.
C'est le résultat de cette phrase parce qu'il y a eu d'autres sondages qui montrent qu'effectivement, sur la forme,
un
sondage en chasse une autre. Comme quoi, il faut regarder les sondages avec parcimonie.
C'est ça, ce qui m'a aussi intéressé, c'est la façon dont il a mis quand même son équipe dans l'embarras. Parce qu'il faut dire, le ministre de la Santé,
pour faire le
en pleine discussion à l'Assemblée nationale. Moi, je me suis dit, alors vraiment, Olivier Véran, quand il a vu tomber, les non-vaccinés, il a dû se dire, mon Dieu, mais comment je tiens l'Assemblée ? La preuve, c'est qu'on a appelé le Premier ministre, lequel d'ailleurs s'est pas mal sorti de son exercice dans le genre.
Mais il y a eu deux nuits blanches pour rien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a dû arrêter le débat.
Effectivement, pour le coup, c'est une formule, qu'on retiendra. Est-ce qu'elle est vraiment efficace? Je ne suis pas sûr que ça convainque qui que ce soit d'aller se présenter, d'aller se faire vacciner.
Oui, non, mais moi, je trouve que ça montre quand même que c'est un président, en réalité, diviseur et depuis le début de son quinquennat. Parce que, et ça montre surtout qu'il a soigneusement réfléchi, parce que pourquoi voulez-vous qu'il aille sur les terrains que j'évoquais tout à l'heure, ce que j'appelle des angles morts, pour prendre des coups? Parce que les résultats ne sont pas bons sur le plan de la sécurité, ne sont pas bons sur le plan de l'immigration, ne sont pas bons même avec une inflation qui commence à montrer le bout de son nez, etc. Donc pourquoi voulez-vous? C'est en cela qu'il est extrêmement tactique. C'est un vrai stratège sur ce plan-là. Il faut le reconnaître. Et ce qu'il fait, soit dit en passant, depuis le début, la France des métropoles ouvertes sur le plan des mœurs, c'est la France qui fume des clopes et qui roule en diesel, le cercle de la raison et le magma de la masse des ignorants. Il a fait ça depuis le début, de toute façon. Ce qui est curieux, c'est qu'il s'en est excusé, comme l'a dit tout à l'heure Catherine. Il remet ça quinze jours plus tard. Et c'est pour ça que je dis, au moins temporairement, il a marqué un point. Mais c'est temporaire, parce que ça peut déboucher sur un vote, si vous voulez, cohérent, en sa faveur, mais ça peut déboucher sur un vote éruptif aussi.
Oui. Ce qui est intéressant,
on peut dire que les vœux, là, pour ses vœux, il a fait un discours qui était très sobre, qui était bien, et il était le candidat masqué. Bon, il n'était pas candidat. Il avait même dit « Votre serviteur n'est pas candidat en décembre ». Là, il prend un élan, enfin, je veux dire... Il est déjà le candidat, il est le candidat officiel. Quand on lit toute l'interview, c'est qu'il se projette à 10 ans. Bon. Mais si le jour qu'il va entrer en campagne, parce que pour l'instant, ses proches disent qu'il a peut-être réussi à court terme, mais ça ne tire pas la campagne par le haut. Donc, le jour où il va être candidat, il faut bien qu'il abatte ses cartes. Il est candidat à sa réélection, pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il va trouver pour décider les gens à voter, alors que, comme le dit très bien Charles, il y a des pans entiers de qu'il n'a pas résolu. Bon, qu'est-ce qu'il peut promettre? Alors, en général, quand il y a un acte de candidature, il y a une remontée, il y a un petit effet souffle en haut. Mais alors, d'abord, il faut qu'il l'atteigne, et après, il ne faut pas qu'il retombe, vous voyez? Donc, ça, son entrée en orbite est quand même très difficile pour lui, parce qu'il a tout dit, et le contraire de tout, dans des termes châtiés et pas châtiés, vous voyez?
Et cette semaine a été marquée par l'abaissement du débat démocratique. C'est ce que vient de déclarer Gérard Larcher, le président du Sénat, qui ouvre la conférence de presse de Valérie Pécresse qui a lieu en ce moment. Une pause et on revient avec les grandes voix. 10h19 sur Europe 1.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Avec Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrero. Gérard qui poursuit la discussion justement sur la façon dont Emmanuel Macron façonne, met le cap de sa campagne. Maintenant, il est clairement candidat.
Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu clairement. Il y a un triptyque qui est de se remettre, quoi qu'il arrive, se remettre au cœur de la campagne, de rallier son camp et le durcir et embarrasser ses adversaires. Et tout ça avec une seule thématique. On pouvait penser, et notamment avec la pré-campagne de Zemmour, l'immigration, l'insécurité, les angles morts, ce que Charles a rappelé, les angles morts du macronisme, on pouvait penser qu'il allait avoir du mal sur tous ces terrains. Et il n'y a pas que ça, je pourrais ajouter aussi les réformes promises et non faites, style les retraites, la politique... Il y avait plein de terrains. Et il s'est rendu compte que pour être réélu, s'il veut l'être, et c'est son objectif évident, s'il veut l'être de bonne manière, il faut qu'il soit sur le thème. Qui aujourd'hui... Écoutez, chacun d'entre nous, quand il met le nez dehors, on le met de moins en moins, mais quand on met le nez dehors et qu'on parle aux gens, on s'aperçoit que tous les gens vous parlent de la même chose, vous parlent de la Covid. Absolument. Et c'est en se mettant... Il fera donc une campagne monochromatique sur la Covid. Je suis, moi, votre meilleur protecteur, vous les Français, je suis votre meilleur protecteur contre cette épouvantable maladie qui nous casse les pieds, effectivement, depuis 3 ans.
Et c'est ça son atout.
Et c'est pas ça, le problème d'emmerder ou pas emmerder, le problème, c'est que c'est ça. Absolument. Il va asséner, et il l'a fait avec vigueur, mais il va continuer, il va asséner ce thème monochromatique.
Michel Cotta.
À ses risques et périls, d'ailleurs. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit absolument une réussite. Si vraiment, comme on l'annonce, ça va durer longtemps et s'il y a une énorme vague, c'est plus difficile. Mais ce que je voudrais revenir sur le... Quand même, ce qui est important, c'est le personnage Macron. On peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est vrai que dire un truc comme ça, il le sait, il est gonflé, quoi. Au fond, il s'affirme, et d'ailleurs, il l'assume, son côté... il a été élu parce qu'il était disruptif, insolent, en 2017. Et il se dit, après tout, si je suis disruptif et encore plus insolent en 2022, ça marchera. Voilà, je vois plus son tempérament qu'une élaboration précise.
Je nuancerai ton propos. Je pense qu'il est très tactique. Parce que là, c'est très tactique.
Les deux ne sont pas incompatibles.
Et de la même manière, il est très tactique parce qu'il a observé ses prédécesseurs. Ses prédécesseurs, comme lui, ne sont pas rentrés très vite dans la campagne, dans l'arène. Il a raison de retarder au maximum. Le Charles de Gaulle, en 65, il rentre dans la campagne.
Mais il le paye très cher.
31 jours seulement avant le premier tour.
Je vous rappelle qu'il l'a payé cher.
Non, en 65, non, pas du tout. Non.
Il a été mis en ballotage.
Parce qu'il a gagné. Bon, il a gagné. Et de la même manière, François Mitterrand est rentré 33 jours pour le deuxième tour seulement avant. Tous sont rentrés au maximum à 69 jours, comme Chirac, ou à 67 jours avant le premier tour. Donc lui aussi va rentrer le plus tardivement possible. Il a raison. Il est quand même le maître des horloges. C'est le chef de l'État.
Oui, mais il ne peut pas. En fait, on ne peut pas dire qu'il va rentrer. Il est rentré aujourd'hui. Je dirais que s'il y avait la meilleure annonce de candidature, c'est celle qu'il a faite aux Parisiens.
Mais bien sûr, c'est en soi une annonce.
Alors, il y aura une annonce formelle dans quelques semaines, sous une forme que je ne connais pas. Oui. Mais il est entré en campagne et il est entré en campagne.
Mais les autres aussi.
C'est un chef. Il a conquis l'Élysée.
Il y en a une qui est en train de parler, Valérie Pécresse, en ce moment, qui donne sa conférence.
Il a conquis l'Élysée comme un chef de bande. Un chef d'un petit groupe qui a fait irruption. On n'a pas eu de campagne électorale. On a volé la campagne électorale de 2017. On est en train de voir une OPA se développer sur la campagne électorale de 2022. C'est-à-dire qu'on va ne parler que du sujet que Macron aura choisi au moment où il aura choisi. Ça, c'est pas bon pour notre démocratie.
Il va se poser des problèmes qu'on n'imagine pas et qui se dessinent déjà dans toute l'Europe. C'est la chute... Le problème de le coût de l'électricité. L'Allemagne est en train de le découvrir, par exemple, parce qu'elle elle n'aura plus de centrale nucléaire dans 2 ans. Bon, ça, c'est on s'aperçoit que peut-être Mme Merkel, surtout au moment où l'Europe vient de dire que le nucléaire est une énergie verte, il y a un gros problème dans la population allemande. En France, on s'aperçoit que certaines usines fermes sont à l'arrêt parce que le coût de l'électricité devient trop cher et qu'avoir fermé Fessenheim aujourd'hui et continuer à développer les 2 centrales à charbon parce qu'on s'aperçoit polluantes. Donc, il va y avoir des révisions déchirantes qui seront d'ailleurs difficiles pour les Verts qui ont été très anti-nucléaires. Mais Macron, en fermant Fessenheim, a fait un énorme péché. Et là, sur cette vision-là de l'approvisionnement en électricité, en énergie, qui est le problème, c'est ce qui se passe au Kazakhstan, c'est trop cher. Qu'est-ce qu'on fait, vous voyez ? Eh bien, ça va envahir, surtout si l'hiver se remet à être rude, ça va devenir un problème central, y compris pour toutes les économies. Si on est toujours en train de parler du Covid et tout ça, et que pour l'instant, c'est une campagne covidienne.
Mais elle ne le restera pas. Je prends la suite de ce que disait Gérard tout à l'heure, auparavant, avant toi, parce que la question essentielle qui se pose pour moi, si tu veux, et nous en avions parlé samedi dernier, c'est le temps que va durer justement le nouveau variant. La vraie question, c'est ça. Et si ça va jusque le 10 avril, date du premier tour des élections présidentielles, il aura gagné par rapport à ce qu'il vient de dire sur emmerder les non-vaccinés.
Et moi, je vous parle du temps que dure cette émission. Et 10h28, c'est le temps de marquer une pause. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Très en forme les grandes voix ce matin. Gérard Carreau, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta. Du côté de chez Pécresse, on invoque l'oracle, ou presque. Côté sémantique, à part le rôle d'un président, ce n'est pas d'emmerder, ce qu'elle vient de dire à l'instant. C'est une autre phrase de la postérité qui a refait surface dans sa bouche cette semaine. La candidate LR a souhaité nettoyer les quartiers, ressortir le karcher de la cave. Ça fait 10 ans qu'il y est et il est temps de l'utiliser. D'abord, a-t-elle raison de labelliser sa sémantique, si j'ose dire? Et d'autre part, c'est elle ou est-ce que c'est Éric Ciotti qui parle?
Elle a besoin,
écoutez, là aussi,
elle a
je pense que c'est une bonne idée. Pardon,
je m'adressais à Michel Cotta, mon cher Gérard.
Je pense que, quelles que soient nos réactions à tous, elle avait besoin justement de retrouver l'angle mort, puisqu'on vient de dire un des angles morts du président de la République, qui est quand même la sécurité. D'ailleurs, il n'en parle pas dans l'interview qu'il fait aux Parisiens. Il parle de santé, il ne parle pas de sécurité. Donc, elle avait besoin de récupérer le leadership, si j'ose dire, sur la sécurité. Alors, elle l'a fait à sa manière. Au fond, on a parlé du karcher. Et donc, elle a remis au premier plan les problèmes de sécurité. C'est pas si mal. Là aussi, c'est pas une erreur.
Dira.
Alors moi je pense que Valérie Pécresse est vraiment là à un moment décisif. Pour l'instant, il me semble qu'elle n'est pas encore la candidate de droite avec un D majuscule que son élection laissait entendre, puisqu'elle a été bien élue à 60-40 au deuxième tour face à Ciotti. Elle a eu des bons sondages, elle est montée tout de suite. Mais je pense que pour l'instant, elle n'a pas encore confirmé. Dans l'esprit de beaucoup d'électeurs de droite, de la droite, comme on dit, clairement assumée, ou de la droite-droite, ou de la droite,
la droite de gouvernement.
Mais peu importe, il y a beaucoup de gens qui se disent elle manque quand même, peut-être, ou de charisme, ou d'un corpus idéologique, ou de quelque chose qui fasse qu'on dise ah bah oui, là on a une alternative forte à ce que propose ou à ce que proposait Macron. Et ça, elle ne l'a pas encore trouvé. Je pense que le karcher est une petite tentative pour essayer de dire, mais si, vous allez voir, c'est une petite tentative un peu désuète. Le sarkozysme est un peu lointain maintenant, et le karcher n'a pas été véritablement efficace, en tout cas peu employé. Du coup, c'est pas la référence absolue. Il faut donc, et je finis là-dessus, donc que Ciotti, peut-être, ou parce que Ciotti est un penseur dans ces domaines, que Ciotti et ses amis, et les autres, lui inventent quelque chose. Et je pense que la piste du nucléaire...
Donc à ma question, c'est pas vraiment Éric Ciotti qui parle, là. Il faudrait qu'Éric Ciotti parle, mais ça n'est pas lui qui parle.
Il faudrait qu'il y ait, peu importe le label qu'on met sur la tête, des propositions de la droite forte qui viennent contrecarrer les espaces morts de Macron.
Non, mais en exhumant le karcher, ça fait réchauffer, sincèrement. Parce que quand on veut commencer par une idée forte, une formule choc, on la crée.
Mais voilà.
On n'exhume pas, si vous voulez, un karcher qui n'a pas démontré et qui n'a pas été suivi par une efficacité de résultat extraordinaire. Le karcher derrière les paroles et les mouvements de torse qu'il a produit a été quand même très loin des résultats du maire, par exemple, de New York. On en parlait avec Gérard cette semaine, quand il a dit « tolérance zéro » Rudolf Giuliani à New York. Ça a été la tolérance zéro et les résultats aujourd'hui, c'est que tous les quartiers les moins sécuritaires de New York le sont redevenus. Et ça, le karcher n'a pas obtenu ce résultat.
Catherine,
moi, franchement, ça m'a agacée quand j'ai entendu dire ça. Parce qu'il faut qu'elle trouve des mots à elle. Vous voyez, c'est un mot qui est ancien, qui, comme viennent le dire mes deux camarades, qui n'a pas porté les fruits. Et donc, moi, je trouve que pour l'instant, elle coche des cases en étant une femme qui a une expérience, qui a de la compétence, qui a de la fermeté, mais qui n'a pas encore acquis le fluide de l'autorité avec lequel on s'avance. Et pour ça, il faut ses formules à soi. Pour l'instant, elle n'a pas de formule pour lancer sa campagne qui incarne son action.
Absolument.
Et qui, et elle sait très bien tous les angles morts. Et moi, je trouve que dans tous ces angles morts qui vont se révéler même pendant ces 2 mois, c'est là qu'elle doit puiser et s'inventer une politique avec des mots à elle. Et là, moi, je trouve que singer Alors, tantôt, elle était l'héritière de Chirac.
Ou Merkel, ou Chirac, ou Sarkozy.
Aujourd'hui, Merkel a fait des choix qui vont être contestés aujourd'hui, mais qu'elle soit elle-même.
Mais Catherine, toi qui connais parfaitement avec tous mes camarades, le fonctionnement et l'histoire de la Ve République. Oui. Chaque élection présidentielle, c'est jouer sur une idée forte. Elle n'a pas trouvé
l'accord. Il y en aura peut-être une aujourd'hui. Michel Cotin.
Moi, je me demandais s'il n'y avait pas, au fond, deux Valérie Pécresse. Ce n'est pas ça qui était très difficile. Non, mais il y en a une qui a quitté,
les Républicains. Freud, s'il vous plaît.
Oui, il y en a une qui a quitté les Républicains contre Wauquiez. Et contre la droite de Républicains.
La droite de Wauquiez.
Donc elle est apparue à un moment donné, comme en créant le mouvement libre, comme au fond une partie de la gauche, de la gauche de la droite. Bon, et puis de l'autre côté, il y a la Valérie Pécresse d'aujourd'hui, qui est effectivement fortement suivie de près par Éric Ciotti, mais Éric Ciotti n'est pas un balourd, c'est quelqu'un qui a aussi une stratégie.
Elle n'est pas suivie de près. Elle a besoin de celui qui est arrivé le premier et qui est un associé, qui est un partenaire indispensable.
Et qui n'est pas relégué à un seul thème qui serait la sécurité.
Voilà, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que pour elle, l'unité de Valérie Pécresse elle n'a pas encore trouvé son unité. Ça retombe sur ce que dit Catherine. Mm-hmm. Ni son unité, ni donc les formules pour l'informer, pour l'incarner.
Une nouvelle pause et les grandes voix reviennent. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Zemmour dans tout ça. Au plus haut de ses scores il y a encore deux semaines, sa cote fléchit. Le candidat Zemmour a de la peine à compter ses parrainages. Sur Europe jeudi matin, il l'a dit en être à 300 promesses sur les 500 requis pour valider sa candidature. Qu'est-ce qui se passe? Le phénomène Zemmour est passé de mode, on l'a oublié, on s'est tourné vers ce qu'on appelle le vote utile. Qu'est-ce qui se passe, Gérard Carrérou?
D'abord, il se passe qu'on ne parle plus des thèmes, je l'ai dit tout à l'heure, on ne parle plus pratiquement de sécurité, d'immigration, qui étaient les thèmes qu'ont fait monter Zemmour pendant les 3 ou 4 semaines avant les fêtes de fin d'année. On ne parle que de la Covid. Et il a rien, franchement, disons les choses, il n'a rien de particulier à proposer sur la Covid. Pas plus que beaucoup d'autres. Donc, effectivement, il y a une baisse mécanique. Est-ce qu'il va... Alors, je ne me prononcerai pas pour savoir s'il va retrouver un deuxième souffle, s'il va réussir. Il a dit, je ne me laisserai pas avoir par Macron. Il va essayer de relancer ces trucs. Mais en attendant, le problème, c'est pas tellement... C'est bien sûr un problème pour Zemmour, mais c'est peut-être d'abord, et plus encore, un problème pour Pécresse, dont nous parlions il y a quelques minutes. Parce que s'il n'y a plus de Zemmour, c'est simple, s'il n'y a pas de parrainage assez, s'il n'y a plus de Zemmour candidat, c'est mécanique. Madame Le Pen, qui est à touche-touche, comme on dit, avec Pécresse, Madame Le Pen peut repasser devant, et à ce moment-là, il n'y a plus de Pécresse au deuxième tour, et on retrouve le schéma de 2017. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Alors, il lance un appel. Bon, le président des maires de France lui a répondu. Bon, mais en fait, le fait politique, c'est ce matin ce qui s'est passé sur Europe. Vous avez peut-être entendu tous la petite phrase de Stefanini, qui est le directeur de campagne de Pécresse. Quand Monsieur Stefanini, avec toute l'autorité et l'expérience qui est la sienne, dit que les maires LR, sont libres de leur parrainage, ça veut dire... Ça veut rien dire et ça veut tout dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que s'il y a, comme par hasard, quelques dizaines, peut-être même 200 de maires LR qui décidaient de donner leur parrainage à M. Zemmour, d'abord il aurait ses parrainages, donc il serait candidat, et ça permettrait à Mme Pécresse d'avoir ce ballon d'oxygène qui lui permettrait d'être au deuxième tour.
Vous parliez du touche-touche, je dis juste un sondage qui est paru ce matin dans le Parisien. Donc on a Marine Le Pen à 17, Valérie Pécresse à 16, et effectivement Éric Zemmour, j'allais dire loin derrière, mais il est quand même à 12, qui n'est pas tout à fait au touche-touche.
Mais aider Zemmour, c'est aussi pour Pécresse un pari risqué. Parce que Zemmour, aider, peut passer devant Mme Pécresse. Ils sont tous à touche-touche. Marine Le Pen, 16-17, Pécresse, 16-17, ou 16 à l'heure actuelle, et 12 pour l'instant. C'est un des sondages.
C'est un sondage.
D'autres sondages,
à prendre avec parcimonie, je le répète.
Il est à 13,5. Oui, oui, oui. C'est un pari risqué, c'est la raison pour laquelle, y compris, à mon avis, tu as cité la phrase de Stefanini, qui est le chef d'orchestre de la campagne
Patrick
de
Stefanini.
Valérie Pécresse. Patrick Stefanini. Bon, mais c'est un pari risqué et c'est la raison pour laquelle je pense que les Républicains, notamment, devraient attendre le Money Times, que les professionnels du football anglais appellent le Money Times, c'est-à-dire la dernière ligne droite, le dernier quart d'heure pour se décider, vraiment.
Michel Cotta.
Je trouve que le problème de Zemmour, quand même, c'est qu'il a réussi à mettre un thème au centre du jeu. Hein, le thème de la sécurité au centre du jeu. Là-dessus, il n'y a pas de problème.
L'immigration.
Sur l'immigration, bien sûr. Bon, donc, là-dessus, il a, au fond, déterminé toute une partie de la campagne. Maintenant, je pense qu'il n'a pas fait sa mue. Il n'a pas fait sa mue de candidat. Il était effectivement sa mue de penseur, de polémiste, qui met le doigt sur les problèmes. Il n'apparaît pas aux yeux des gens, apparemment.
Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui manque ?
Il manque...
Quand tu fais plus de 10, déjà que tu commences à apparaître comme un...
Mais c'est pour ça que je demande à Michel Cotta qu'est-ce qui manque.
Effectivement, il fait plus de 10, mais enfin, il a commencé très vite et très fort. Et puis, on a bien senti qu'à un moment donné, ça a patiné.
Il faut tenir dans la durée.
Ça patine parce qu'au fond, les projecteurs, il les a mis sur les idées, mais il ne les a pas mis sur son personnage, qui, vous me direz ce que vous voulez, n'est pas un personnage présidentiel évident.
Catherine.
Oui, non, mais c'est vrai que pendant plusieurs semaines, on n'entendait que lui. C'est-à-dire.
À tout bout de champ.
Ouais. C'est notre faute, aussi.
Il était tellement dans l'espace.
Je ne sais pas si on peut parler de faute. Voilà,
les gens, quand les sondages montaient, ils confondaient peut-être notoriété et désir de voter pour lui. Mais enfin, ça faisait monter dans les sondages. Et c'est vrai que depuis la fin décembre, on l'a moins vu. Donc, il a baissé. Et puis, les propositions, on ne les connaît pas. Mais. Il était sur Europe 1
cette semaine, jeudi matin.
Et moi, ce qui m'a frappé, vous voyez, alors que souvent, quand les politiques restent 40 minutes, tout d'un coup, la tension s'en va, on l'écoute. Oui. C'est quelqu'un qui capte l'attention, qui, dans un meeting, peut faire fort. Si on relève, je veux dire, voilà, c'est tout ce que je dis pour l'instant. Alors que c'est les autres candidats, s'ils n'ont pas des propositions intéressantes, moi, je trouve qu'ils ont, pour l'instant, au bout d'un moment, de 5, 10 minutes, on dit, on lâche prise. Ouais.
Si on parlait dans le...
Moi, je crois qu'Emmanuel Macron a très bien compris que ce qui submerge tous les sujets, c'est la pandémie. Et toutes les discussions se tournent. Tout à l'heure, Gérard disait, de toute façon, tu ne peux pas entamer un dialogue avec quiconque sans qu'on te parle de la pandémie.
Alors, tu as combien de doses ? Et toi, tes enfants, tu fais comment ?
Et donc, partant de là, tous les sujets qu'il a mis en exergue, notamment plus que la sécurité, l'immigration, l'identité de la France pour l'instant, est submergée par ce qui se passe, comme dans tous les pays européens.
Mais il devrait s'adapter, non ? Enfin, je dirais.
Sauf que ses connaissances, son savoir, les sujets sur lesquels il a réfléchi, il a des arguments, ne sont pas ceux qui relèvent de la médecine.
Non, mais il devrait s'engager, par exemple. Ce qu'a dit Catherine, moi, ça me paraît un des sujets essentiels, et on n'en parle absolument pas. Ça, c'est limité à ce que M. Macron dise. Il allait relancer des petits réacteurs nucléaires. Il n'a pas donné plus de précision. Et on se dit, oh là là, c'est encore une histoire. On ne voit pas comment ils vont sortir.
Et tu sais pourquoi il l'a dit ? C'est deux jours après que la droite ait dit qu'il faut relancer le nucléaire.
Mais il y aurait un des candidats majeurs.
Ah, oui.
Et je mets dans les candidats majeurs, bien sûr, Mme Pécresse ou Mme Le Pen, et M. Zemmour, aurait fait une proposition structurée pour une relance gaullienne des centrales nucléaires en France, à un moment où la France va avoir,
on ne se rend pas compte, le problème est devant
le plus
nous,
grand
c'est
mal,
très grave.
Le plus grand mal, personne pour l'instant...
Mais Gérard, il faut connaître le dossier.
Ah ben oui, il faut connaître le dossier. Si on est candidat à la présidence de la République, il faut connaître le dossier.
Vous parlez des angles morts. De Macron, il y a effectivement des angles morts, mais alors des angles morts de Zemmour, il y en a une pagaille.
Mais c'est ça le problème.
Il nous reste à parler du Kazakhstan, alors je vous propose de marquer une pause et on revient dans un instant.
Les grandes voix d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Avec Gérard Carreau, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta, on va parler du Kazakhstan. Et les auditeurs fidèles qui nous écoutent savent que c'est pas parce que le Kazakhstan c'est loin que ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse parce que la France a beaucoup d'intérêts commerciaux là-bas et qu'elle n'est pas la seule. Ça nous intéresse parce que ce pays immense est une mine de réserves de matières premières et qu'il est coincé entre la Chine et la Russie dont il n'est pas complètement coupé, loin de là. En ce qui concerne les faits, je les rappelle, purement d'actualité, on a une hausse des prix, notamment du carburant numéro 1 là-bas, qui est le GPL, prix qui a doublé, avec des manifestations. Simplement, le chef de l'État réprime ces manifestations en invoquant une possible attaque terroriste et d'ailleurs donne ce matin l'ordre de tirer pour tuer. Vous avez le contexte. Bien sûr, tout cela est beaucoup plus compliqué, Catherine Ney.
Ben, c'est compliqué, mais ce qui se passe en ce moment, c'est les gilets jaunes.
Oui.
C'est des gens qui ont besoin pour aller travailler, ou pour travailler, on fait beaucoup de routes. Parce que ce qui est fascinant, c'est que vous regardez la carte du Kazakhstan,
oui.
C'est l'équivalent de l'Europe. Et il y a 17 millions, il y a 18 millions d'habitants.
Oui. Hein, bon.
Dont 50% de Russes.
Dont un tiers
non,
de russophones.
Non. Dernièrement, le Quai d'Orsay m'a fait parvenir.
Bon, alors, si bon, entre un tiers et 50%.
Si tu veux, 50% de Russes.
40%.
Mais, cet énorme territoire, c'est une richesse formidable parce que c'est le 9e producteur de pétrole, mais il y a de l'uranium, il y a tous les métaux dont les centrales nucléaires ont besoin. Et tout le monde va s'épuiser. Les Américains, les Français, tout le monde est client. Donc, personne au monde n'a intérêt à ce que ce pays soit
déstabilisé.
Renversé, soit déstabilisé. Bon. Pour Poutine, la frontière, c'est 6000 kilomètres. Hein, bon, alors c'est sûr qu'il n'y a pas assez de gens pour... L'armée ne peut pas tenir les 6000 kilomètres. Et puis, ce n'est pas ça le problème. C'est qu'il faut arrêter les émeutes. Elles vont être réprimées dans le sang. Nazarbayev, qui était déjà l'ancien président, qui était là depuis 30 ans, n'était plus que président du comité de sécurité. En fait, il continuait à gouverner en sous-main. Là, il a démissionné, mais il donne des ordres pour que l'affaire... Il faut que cette affaire...
Il a quand même renommé la capitale à son prénom. Quand
oui,
un
oui, oui,
sultan,
d'accord.
Hein,
d'accord.
Astana est devenu un Nour-Sultan.
Il faut que ça s'arrête vite, et ça va s'arrêter vite, hélas. Voilà. Le problème, est-ce qu'après... Parce qu'il va y avoir un massacre. Les gens vont être mis en prison et tout ça. Est-ce qu'après ça, est-ce qu'il y a un risque de dérapage du pays? Moi, j'en doute, mais en tous les cas, c'est ce que ne veut pas ni le Kremlin, ni Poutine, parce qu'il a un autre front qui est l'Ukraine et que c'est sa seule, sa seule obsession.
Au moment où s'ouvrent d'ailleurs des négociations.
Voilà, c'est
avec
sa
les
seule
Américains.
Obsession. Et donc, tout le monde, il va. Tout le
Michel
monde a
Cotard,
intérêt à ce que ça se calme.
Un petit mot, Michel Cotard, et ensuite Charline.
Non, c'est vrai qu'au-delà de ça, il y a le problème de Poutine, en effet. On voit comment. Poutine ne peut pas laisser, évidemment, une révolution baptisée démocratique à sa frontière, c'est évident. Et à la fois, on voit bien sa tentation de retrouver les républiques qui ont fait autrefois la République soviétique. C'est une tentation aussi de pouvoir sur eux, et ça, à mon avis, on peut difficilement l'éviter.
Charles Villeneuve.
C'est Poutine.
Oui. La déstabilisation du Kazakhstan... Catherine a très bien expliqué sur le plan énergétique et du potentiel énergétique qu'une déstabilisation, c'est aussi la déstabilisation du Kyrgyzstan, du Tadjikistan,
toute la région,
de l'Arménie.
Oui. De toutes
parce
les anciennes
que tous ces pays sont liés par un pacte, qui est une sorte de mini-pacte de Varsovie, qui constitue le verrou de toute l'Asie centrale des anciens pays, des pays actuels, qui ont été sous tutelle soviétique. Et c'est là, et malgré ça, il est bien évident que la déstabilisation du Kazakhstan, c'est aussi en partie une déstabilisation de Poutine. Poutine a bien d'autres soucis et d'autres chats à fouetter à l'heure actuelle, parce qu'il est offensif sur l'Afrique, il est offensif, mais il ne peut pas être offensif sur partout. Ce n'est pas possible.
Donc c'est trop facile de dire
même
c'est Vladimir Poutine.
Les États-Unis, qui ont beaucoup d'investissements au Kazakhstan en matière de pétrole, par l'intermédiaire d'une grande compagnie américaine, Exxon, n'ont pas intérêt à la déstabilisation du Kazakhstan. Et surtout la Chine, 50% de son charbon vient du Kazakhstan.
Kazakhstan voisin.
J'ai plus beaucoup de temps, je veux dire un mot là-dessus.
Poutine, pour l'instant, il ne peut pas être sur tous les fronts, parce que ça coûte cher et parce que son PIB était équivalent à celui de l'Espagne. Oui. C'est que économiquement, la Russie va très très mal. Mmh. Et lui, il a encore réserves formidables de pétrole et de gaz, mais il n'a pas les moyens de refaire des installations neuves pour pouvoir mieux les exporter.
Mais simplement, c'est la guerre froide qui continue par d'autres moyens.
Oui.
Depuis 90, depuis la chute du mur de Berlin, les Américains, à travers l'OTAN, à travers tout un certain nombre de manœuvres, même la CIA y a contribué, essaye de déstabiliser les marges de l'Union soviétique, c'est-à-dire les pays anciennement de l'Union soviétique qui sont aux frontières de la Russie. Et il y a eu un certain nombre de cas. Là, maintenant, on a le Kazakhstan. Mais en même temps, le Kazakhstan peut vous revenir en boomerang dans la figure, puisque trop d'industries américaines, françaises et autres sont impliquées au Kazakhstan.
Exactement.
Donc l'intérêt fondamental de tout le monde, et je pense qu'on y arrivera, il y aura peut-être des morts, il y aura une intervention, il y en aura peut-être un peu plus, mais il y aura une intervention pacificatrice des troupes, des chars soviétiques, et on négociera, parce qu'on ne peut pas imaginer que ça devienne, ce pays monstrueusement grand, au plein milieu et aux frontières de l'URSS, devienne un champ de bataille.
N'oublions pas quand même que l'industrie, si j'ose dire, spatiale russe, est au Kazakhstan, de Baïkonour, d'où partent les Soyouz.
Les Soyouz, ouais.
Merci aux grandes voix, merci à Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Je salue mon ami Laurent Mariotte. Bonne année, mon cher Laurent.
Bonne année, cher Pierre. Bonne année, les grandes voix. Et bonne année, les amis. Ça ne vous échappe pas, c'est la saison des galettes. Hein.
Qu'est-ce qui se passe là?
Eh bien, regardez.
Il y a une attaque de galettes dans le studio Coluche.
Exactement. Et dans le vôtre aussi. Parce que nous respectons les mesures sanitaires et qu'on tient à vous. Voilà, on fait galette à distance, mais vous avez une galette dans le studio.
C'est quoi?
Du champagne.
Merci, Laurent. Du champagne.
Merci, Laurent. Bonne émission.
C'est une galette de Nicolas Bernardet de la Garenne Colombe que nous allons partager à studio d'écart, on va dire, puisqu'on ne se mélange pas. Bonne année, les grandes voix.
Merci, bonne émission, Laurent.
Bonne année à vous.
C'est plus le matin.